Couleur Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture, et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir, ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.
Il y a peu, nous vous avons parlé de l'approche préventive des déséquilibres au jardin. Ce sera bien souvent notre préféré. Mais parfois, certains déséquilibres sont difficiles à prévoir. Parfois même, c'est grâce aux symptômes qu'on se rend compte du déséquilibre. C'est parfois en tombant dans la maladie qu'on se rend compte de ce que l'on a du mal à dire. Alors, parfois oui, il faut avoir une approche curative. Mais même dans cette approche, on peut y mettre de la conscience et du soin. Rétablir un équilibre se fait rarement correctement au lance-flamme. L'approche curative, c'est notre thème du jour. Mais d'abord, c'est le moment des réponses à nos questions. Nous sommes avec Titane. Bonjour Titane.
Bonjour Floem.
Nous sommes avec Marie-Laure qui a sélectionné notre musique aujourd'hui.
Bonjour.
Et nous sommes avec Hélène Hollard.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, bonjour. Vos questions, nous les prenons sur les réseaux, mais vous pouvez nous les adresser à questions@radioperma.org. Gab Guy nous écrit « Bonjour à tous. Comment faire pour éviter que les escargots mangent les courgettes et s'attaquent aux fraises ?» Alors, la première chose qui nous vient en tête...
Voilà, manger les escargots.
Manger les escargots, voilà, c'est notre première réaction. Boulotter les escargots...
Avec un peu de sauce.
C'est valable aussi pour les fourmis, n'hésitez
c'est
pas.
C'est ça qui est bon.
On est encore dans comment on fait pour chasser les indésirés du jardin.
On peut lire des informations sur les escargots, comme ça on aura moins envie de les éradiquer.
Ouais.
Moi, j'avais lu sur les limaces, ça m'avait soigné. Oui, du coup, je ne les vois plus du même œil.
Ouais. Il y a un petit bouquin qui s'appelle « Comment faire fuir les limaces ». Mais c'est pareil, c'est toujours une approche un peu punitive.
Ouais.
Donc, je ne suis pas sûr que nous répondions à cette question, finalement. Mais les manger, c'est très agroécologique, c'est très permaculturel. Ben, votre jardin est producteur d'escargots, profitez-en.
Moi, je suis végétarienne, mais bon.
Ah bah ouais, bah tout le monde n'est pas végétarien.
Et c'est n'importe quel escargot?
Alors généralement, le problème c'est que les escargots ont tendance à réduire énormément à la cuisson. Donc on travaille souvent avec des escargots de Bourgogne, parce que comme ça il en reste un petit peu, qui sont un peu le bulldozer de l'escargot. Hein. Mais qui en même temps sont aussi très beaux, donc c'est un peu triste. On mange aussi les petits gris, ça se fait pas mal dans certaines régions. Les autres sont vraiment trop petits pour qu'ils arrivent à faire quoi que ce soit. Moi je sais, quand ils sont vraiment petits, je les donne aux poules. Vraiment les poules,
Sinon c'est de les ramasser. Hein.
Les ramasser, puis les emporter
soir,
un petit
nuit,
peu plus long.
Puis voilà,
oui, le soir. Généralement, une fois que la nuit est tombée, et avant qu'elle soit trop froide, moi je fais ça une semaine par an. Je fais tous les soirs une semaine par an, et généralement je suis bien tranquille pour les mois qui suivent.
Mmh.
Alors bon, je passe pour quelqu'un d'un peu bizarre qui est à la frontale dans ses oignons en train de ramasser ses oignons, mais c'est une solution qui fonctionne aussi. Voilà. Après, moi je les donne aux poules, hein. Héliciste, il y a humaniste, il y a héliciste pour les escargots, que Hélène, moi je ne vais pas les remettre dans les champs au loin, je les donne à mes poules qui les transforment en œufs, et ça me va.
Ouais.
Alors, Manuel Busson, bonjour à tous, sur mes pieds de courgettes, j'ai toujours quelques courgettes qui poussent avec le bout jaune et ensuite pourrissent. Elles ne poussent pas par terre pourtant. L'année dernière, j'ai eu la même chose sur mes quatre pieds. Pensez-vous à une maladie? Comment y remédier? Bon, eh bien, Manuel, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que tu puisses avoir une courgette qui n'a pas été très bien fécondée. et puis qui avorte. Voilà, ça devient jaune et puis ça disparaît. Donc c'est pas forcément une preuve de maladie, puisque comme tu le dis, t'as toujours quelques courgettes qui poussent avec le bout jaune. Vu la productivité d'une courgette sur l'année, en avoir une ou deux qui partent en avorté, on va dire, c'est pas forcément une preuve de maladie. Si elles deviennent toutes jaunes, là par contre, c'est pas exactement la même chose. Hélène me glissait à l'oreille tout à l'heure que ça pouvait être un virus. Et que nous ne connaissions plus le nom de ce virus, nous voilà fort, fort embêtés, parce que du coup, on va avoir du mal à te proposer quelque chose. Mais avant que ce soit vraiment toutes tes courgettes qui jaunissent, c'est qu'il y a encore une fois un souci au niveau de ton préventif. Parce que tout est parti en vrille, c'est qu'il y a un problème au niveau de ton association, ou peut-être qu'il faut que tu écoutes notre émission sur l'approche curative. C'est celle que nous allons faire aujourd'hui même. Je vois Hélène qui farfouille dans les bouquins pour te répondre. Mais ça se trouve, ça viendra en cours d'émission aujourd'hui pour cette histoire-là. Mais a priori, quand même très fréquemment, quand on a eu une ou deux parents par pied, c'est juste que en fait, il n'y a pas une fécondation qui était très très riche et puis que la plante coupe court un peu à ce fruit-là. Parce que la mise à fruit est quelque chose de très exigeant pour une plante. Donc souvent, elles ne le font pas pour rien. Hélène, les résultats de votre recherche bibliographique immédiate, oui.
Alors,
c'est notre Google personnel, notre Lilo à nous.
Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, il parle de la bactériose.
Bactériose.
Des cucurbitacées. Après, c'est comment déjà, redivoir, comment c'est jaune.
Eh bien, c'est jaune au bout. On a une très jolie photo. Vraiment, on a un morceau de la courgette qui est un peu bombé au début, qui a l'air tout à fait normal, puis ensuite qui est très cylindrique et puis qui finit pauvrement, toute petite rikiki, jaune, vraiment d'un joli jaune, hein, là pour le coup. On a un gradient de vert très sombre à jaune à l'autre bout.
Bon, en tout cas, par exemple, là, il dit de faire attention aux graines, de prendre des graines qui soient saines. Par exemple, s'il lui reprend ses graines d'une année à l'autre, peut-être que ça peut être ça. Faire les rotations correctement.
Bon. Ben, pas plus de réponses que ça. A priori, c'est ordinaire ce qui t'arrive, Manuel, on dirait.
Mais après, ça vaut toujours le coup, je pense, de faire gaffe aux
semences et à la rotation. Ouais. Bon, de toute façon, c'est toujours cette histoire de préventif, de qualité préventive. Yo Yannick, qui nous pose cette question, dois-je couper les fleurs de la ciboulette comme celle de la rhubarbe ? Oui, on a parlé de la rhubarbe la dernière fois, du coup, ça a dû vous donner des idées. Alors, titane, secoue, avec un air compassé, la tête... Non.
C'est trop joli.
De mon expérience, les fleurs, je les mets dans une salade.
Tout à fait.
Mais alors, tu as le problème que la tige est trop dure.
Coriace.
Coriace, voilà. Je ne sais pas ce que vous, les spécialistes, vous rajouter.
C'est de la ciboulette.
Oui, de la ciboulette.
Non, c'est vrai que les fleurs sont jolies et ça veut dire simplement que oui, les tiges ne seront pas utilisables, mais il y en a d'autres à côté, donc on peut aussi les laisser sur le pied. Puis voilà.
Moi, je les coupe, enfin, je taille les fleurons parce que la ciboulette, c'est une fleur qui est pleine de petits fleurons et du coup, je coupe au niveau de la tigelle qui est sur la tige. Et je les fais sécher aussi, comme ça j'en ai et ça reste relativement rose. Et je m'en sers comme condiment qui a un petit goût de ciboulette, quoi, un petit goût alias. Donc non, ce n'est pas forcément la peine de couper tes fleurs de ciboulette, car c'est joli, mais si tu veux les couper, pense à les manger. Fabien Renaud, qui a une question. Bonjour, je cherche un moyen de remplacer le Roundup pour traiter les allées. En fait, tu as peut-être un problème d'allées. En fait, il ne faut pas que tu aies d'allées. Étant jardinier à mon compte depuis 11 ans. Ah, bah du coup, tu n'as pas le choix, ce n'est pas tes allées. Donc tu cherches à remplacer le Roundup pour traiter les allées de tes clients, car on te demande souvent... Et tu voudrais changer d'optique en respectant la nature. Pareil pour la création de pelouse, il est très difficile de vendre des gazons aux clients en leur expliquant que je préfère retourner plusieurs fois la terre et attendre la repousse des mauvaises herbes et enfin semer une pelouse. Mais cela prend beaucoup plus de temps, donc c'est plus cher. Mes concurrents, eux, ne se privent pas d'utiliser le glyphosate pour refaire une pelouse. Je veux vraiment changer de mentalité. Pareil, arrêter de bêcher, remplacer par du paillis. J'utilise beaucoup de pouzzolane, de paillis d'ardoise, mais tout cela a un coût et c'est compliqué à vendre. Il y a plein de questions dans ta question, Fabien, Hélène.
Ouais, pour les allées, moi j'ai fait ça aussi chez quelqu'un. Alors déjà, il y a le fait de mettre le comment on appelle ça, le tissu qui met
le géotextile.
Oui, le bidim, voilà, ou géotextile en dessous des graviers. Mm-hmm. Et sinon, moi, je faisais au lance-flamme.
Non,
ça s'appelle oui, pas comme ça, ça s'appelle le brûle.
Un désherbeur thermique, oui.
Alors ça fait un peu mal au dos, je trouve. Mais j'ai vu ça en passant sur les petites plantules, parce que font les maraîchers aussi entre les rangs. Quoi. Enfin, mais en fait, ça marche si les plantules sont toutes petites. Et c'est moins. Voilà, c'est ça crame les plantes et ça n'a pas d'effet.
C'est bien la peine que je fasse mon introduction d'émission sur.
C'est pour ça que du coup j'ai dit lance-flamme. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est le désherbage thermique, ça s'appelle. Ça fait beaucoup moins peur.
Tout à fait, exactement. Il y a d'autres moyens. Chez mon oncle, on utilise le désherbage thermique à la vapeur. Mais on s'en sert essentiellement plutôt pour les semis, les plantes. Là, c'est, pour le coup, c'est une approche un petit peu. C'est pareil, c'est un peu la grosse Bertha. C'est très violent. Il s'agit ça s'appelle même la stérilisation vapeur pour faire des semis en godets. Ils passent avec des grosses plaques qui font 2-3 mètres carrés où il y a une centrale vapeur à côté qui produit de la vapeur en continu. C'est consomme énormément d'énergie. Et où ça va cuire le sol en pratique sur 10, 15, 20 cm. Là, tout est ratiboisé. Alors, on a une jolie, entre guillemets, terre bien propre,
mais morte.
Alors, bon, la vie revient aussi, parce que ça joue sur 25 cm de profondeur, 15 à 25 cm, normalement 15, c'est déjà bien. Mais c'est une approche qui est moins toxique que le glyphosate, moins rémanente, clairement, plus compatible avec une suite de végétation, puisque en désherbage
sur les allées
de vapeur, etc., même sur les allées, ça peut se faire, mais ça reste quand même quelque chose de très fort. Ouais.
Sur les allées, moi, je pense que c'est de renouveler le géotextile.
Il y a peut-être ça aussi.
Oui, parce que souvent, les géotextiles, avec le temps, ils se délitent. Et voilà,
après, est-ce que tu as des solutions en termes de géotextiles qui ne soient pas des géotextiles synthétiques ?
Synthétiques, je ne sais pas.
Parce que c'est un peu le souci du géotextile. Ça marche notamment parce que ça ne se dégrade pas.
Ça se dégrade avec le temps quand même. Hein. Mais ce n'est pas biodégradable de toute façon. Voilà. Non, mais l'idée, c'est que ça ne soit pas dégradable, justement. Ouais. Mais bon, non, je ne connais pas de...
Ouais. Après, il y a la question des allées en gravier. Faut peut-être la permaculture, souvent, c'est vraiment et l'agroécologie, c'est vraiment une vue. On revient quand même à la source. C'est-à-dire une allée. Pourquoi la faire en gravier ? C'est-à-dire, ça peut aussi être une allée qui est en pas japonais, donc en pierre plate. Et puis entre l'herbe qui est entre s'il y a vraiment un problème d'herbe, on taille l'herbe. C'est une autre approche de l'allée. C'est sûr que si c'est une allée en gravier, comment on appelle ça, en Balthazar. Oui, c'est sûr qu'à la fin, il va y avoir des plantes qui vont venir. Oui. Ça, c'est obligé.
Moi, là où j'entretenais donc, chez quelqu'un, c'était des allées, mais pour circuler, pour les voitures, etc. Quoi. Et il ne voulait pas changer de destination pour les allées.
Ouais.
Donc après, l'alternative, c'est de goudronner, donc c'est pas forcément plus satisfaisant. C'est,
voilà, mais même changer de destination, peut-être choisir une autre approche de mise en place. Il parle de paillettes d'ardoise, mais ça a un coût. Ça, c'est la deuxième partie de la question, c'est la question du coût. Parce que la plupart des approches qu'on a, c'est des approches qui prennent du temps, c'est des approches qui sont forcément... qui ont une technicité différente. Et là, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est vraiment une question de culture et puis de positionnement marketing, Fabien. Je suis absolument persuadé qu'il y a des gens qui sont prêts à accepter que tu aies une approche qui soit plus respectueuse. La question, c'est de trouver ces gens-là. De la même manière qu'il y a des gens qui sont prêts à manger des légumes qui sortent d'un panier bio, qui coûtent un petit peu plus cher, et pas forcément beaucoup plus, mais qui ont une meilleure valeur, qui sont bio, locaux, etc. Mais c'est une question de positionnement sur ton marché, sur ta niche socio-économique. Ce qui est aussi une approche qu'il faut penser de manière permaculturelle au départ. Voilà. Bonne chance pour ta transition professionnelle. C'est des questions qu'on a souvent. La permaculture et l'agroécologie, bien sûr, ça peut se faire au niveau professionnel. Évidemment, ça se joue juste à d'autres échelles. On s'écoute de la musique. On s'écoute de la musique. Et cette fois-ci, dans nos disques de la semaine, nous avons Charles Trenet.
La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac, tic-tac, tic-tic. Blou, 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 font tous les dindons, et la jolie cloche dit ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Blue, au rythme de ce boum, qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh ouh ouh, la bicheuse à bois fait la vaisselle cassée fait fric fric flac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger que l'oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Moum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit moum, quand notre cœur fait moum, 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 je n'entends que moum, moum.
Couleur FM 97.1. Vous écoutez Couleur Terre et vous venez d'entendre Charles Trenet d'une compilation, je pense que ça s'appelle Le Bal des Oiseaux, c'est ça, Marie-Laure ? Je parle sous ton contrôle.
C'est un autre album.
C'est un autre album. Ah bon, alors je me trompe. Ah non, c'était l'album de Tiersen qu'on était censé mettre et finalement.
Tiersen.
Oh là là.
Prochaine fois.
C'est pas moi qui m'occupe de la programmation musicale et ça s'entend. En tout cas, c'était une compilation qui s'appelle Je le fou chantant en public. Voilà. Bref, c'était Boum de Charles Trenet. Aujourd'hui, nous avons une approche curative au jardin. Nous allons prendre soin de nos plantes lorsqu'il faut être à leur chevet. Alors, par quoi on commence ? On fait pourrir encore des trucs ?
Non. Moi, j'aurais bien.
On fait des extraits fermentés.
Non, moi, je commencerais bien par. Par dire aux jardiniers, aux gens, que en fait c'est leur comportement qui va induire leur pratique. C'est-à-dire il y a des gens qui vont voir un puceron et vont le détruire, il y en a qui vont au contraire vont se laisser envahir complètement par des pucerons ou autre chose quoi. Et en fait dans le curatif comme ailleurs mais peut-être plus, on va voir le tempérament de la personne qui est dans le jardin quoi. Et donc ça c'est déjà une première chose, donc du coup il va y avoir un éventail très large entre tout laisser faire et puis agir dès qu'il y a un petit truc de travers quoi.
Ça donc, va vraiment dépendre de la personne.
Ah oui, moi je pense que c'est vraiment le tempérament de la personne qui fait qu'elle va pas supporter un truc et qu'elle va tout de suite le détruire. Et
mais en termes de récolte au final
déjà,
alors je vais te dire différemment, toi tu fais quoi par exemple, t'es plutôt du genre laisser faire ou...
Moi, je suis plutôt du genre très laxiste, ouais.
D'accord.
Très, très, très.
Ouais, et mais pareil, moi,
après...
ça va être une émission curative par des gens qui curent rien du tout. Ah, bah, vous êtes bien avancés, ça, c'est des bons conseils, tiens.
Non, et du coup, j'avais un autre truc. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'était un truc par rapport au lien avec la personne, avec l'être humain, on va dire, ou la personne qui est jardinière, mais c'est le jardinier. Mais c'est aussi qu'en fait, quand on rentre dans l'approche curative, très souvent, on rentre dans l'approche, on va lutter contre tel et tel machin. Et en fait, plus on va lutter contre ce truc-là, et plus on va en être envahi. Mmh. Et moi, je vois dans tous les stages que j'ai fait avec les gens, ils me disent, ouais, bah, j'ai des limaces, par exemple. Donc, les limaces, bah, moi, j'ai toujours eu des limaces. Alors, je me bagarre depuis 20 ans contre les limaces. Et plus je me bagarre, et plus j'en ai. Et tu vois, bah, voilà, c'est une illustration. Plus on va se bagarrer contre n'importe quoi, et plus il va être présent. Et chacun a un peu son, je sais pas pourquoi,
son nuisible de prédilection.
Voilà, ouais. Il y en a qui auront le puceron, d'autres ça va être la limace, d'autres ça va être les maladies, d'autres. Enfin bon, donc je sais pas si après on pourra en faire un lien.
Dis-moi qui est ton nuisible, je te voilà, dirai qui tu es. Enfin ton nuisible, déjà c'est.
Oui, parce qu'ils sont pas nuisibles, parce
qu'ils
sont pas là.
Moi j'appelle ça les indésirés, parce que franchement je les veux pas forcément. Voilà. Bon.
Donc voilà, donc déjà de se questionner quand on a un problème et de pas tout de suite vouloir se bagarrer contre, déjà. Mmh. Même en étant dans le curatif, hein, mais voir oui, comment on peut donc renforcer la plante, c'est du préventif et du curatif avec la prêle, par exemple, qui est à cheval entre les deux. Après, on peut faire de l'isothérapie, on peut faire des extraits fermentés, mmh. on peut faire différentes choses qui vont aider la plante et qui vont être ça peut être des répulsifs, on n'est pas obligé de tout de suite tuer tout mmh. ce qui bouge. Donc voilà, il y a plusieurs façons d'agir mmh. en allant jusqu'à ce qu'on appelle la communication avec les plantes et avec les nuisibles aussi, enfin nuisibles, mais les indésirables en même temps, quoi.
Mmh. Ouais,
il y a vraiment toute la palette, quoi. Mmh.
Moi, je sais que j'apprécie d'avoir un peu la part des anges dans mon jardin. Je suis pas gêné quand j'ai des morceaux qui s'en vont d'un chou, une petite feuille de tournesol, etc. Bon, quand c'est tous les tournesols, c'est un peu embêtant. Mais pour moi, ça fait partie de la diversité de mon jardin. Et je suis content d'avoir des coccinelles. Donc, je sais qu'elles se nourrissent de pucerons. Donc, si je veux des coccinelles, il me faut des pucerons. Enfin, voilà. Mmh. Je le vois plutôt dans ce sens-là que dans l'autre. Que mince, il faut que j'ai des coccinelles, j'ai des pucerons. D'ailleurs, en parlant de coccinelles, c'est l'occasion de le glisser. Parce que plein de gens, en fait, vont acheter des larves de coccinelles au magasin quand il y a des pucerons. Mais je veux dire, les coccinelles, elles arrivent bien toutes seules, d'une part. Et d'autre part, en ce moment, on a un sacré gros problème avec les coccinelles qui arrivent de Chine, qui sont beaucoup plus... Enfin, comme d'hab, en fait, avec des espèces exotiques qui bouffent tout, qui sont hyper violentes et qui prennent la place des coccinelles locales. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai un côté un petit peu laxiste. J'ai un côté préventif aussi. J'apprécie de cultiver dans certains endroits des plantes qui vont être attaquées en premier par des indésirés et puis qui vont du coup amener des auxiliaires. Et voilà. Moi, j'ai vraiment beaucoup plus une approche préventive qu'une approche curative.
Moi aussi, mais après, ça n'empêche pas de connaître un peu ce qu'on peut faire.
Et non, parce que des fois, il faut. Ouais.
Voilà. Et après, donc il y a les extraits fermentés, on peut peut-être en parler après, mais ce qui est moins connu, c'est l'isothérapie et qui fonctionne très, très bien. Donc, ça, c'est une pratique homéopathique et biodynamique. Mm-hmm. Et en fait, qui marche bien en même temps pour les adventices et pour les parasites ou les ravageurs, un peu pour tout. Enfin, alors, pour tout, même complètement, quoi.
On parle d'isothérapie ?
Donc, on peut parler de ça, comme
mais
ça.
Mais qu'est-ce que c'est donc, l'isothérapie ?
Ben voilà. En fait, isothérapie, ça veut dire soigner par la même chose. Hein. Mm-hmm. Et donc, mettons... Alors, on va prendre... Parce qu'on n'a pas finalement parlé des adventices, mais c'est un peu pareil. On peut être envahi par des herbes comme on peut être envahi par des parasites. Hein. Mettons les doryphores, parce qu'en général, c'est rare les gens qui vont prendre la défense des doryphores.
Hein. Donc, c'est trop mignon, les doryphores.
Oui, bof. Donc, on prend des doryphores, en l'occurrence. On les fait brûler, donc, soit en les faisant tomber dans une...
C'est méchant.
Oui, c'est méchant, l'isothérapie, au départ, c'est méchant. On commence par détruire le parasite dont on veut se débarrasser. Et, ou bien la graine.
C'est comme ça que ça marche, en fait. Ça, tu récoltes tous les doryphores. Et voilà.
Après, il n'y en a plus.
Après, il n'y en a plus. Bah, merci.
Ça, c'est une pratique, quand même.
C'est une pratique aussi.
Non, mais là, on les prend, on les brûle. Donc, ça peut être d'autres parasites. Et une fois qu'ils sont en cendre, on écrase bien la cendre et on prend 1 gramme de cendre pour un litre d'eau. Donc, de l'eau, toujours pareil, de l'eau un peu acide.
Un gramme de cendre de doryphore, ça fait quand même quelques doryphores, j'imagine.
Ça fait quelques doryphores, mais ça fait très peu. 1 gramme, c'est rien du tout. Hein. Ça fait le bout d'un ongle. Ça fait, je ne sais plus quoi.
Le doryphore, c'est pas très dense.
Pour tous les... On peut faire vraiment pour tout. Ça sera la même dose, 1 gramme de cendre pour un litre d'eau. Quoi.
D'accord.
Et on remue bien notre mélange. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle les dilutions décimales dynamisé, donc on va prendre ce mélange, on va mettre 10% dans une bouteille vide, on va compléter jusqu'à 1 litre d'eau, donc ça fera une dilution décimale, et ensuite on va secouer la bouteille pour dynamiser le tout, quoi. Et on va faire ça, donc alors déjà on va le faire jusqu'à la D8 pour le pulvériser dans
donc
les
on
jardins.
On dilue 8 fois, on
donc
fait 8
fois, on
dilutions
on reprend le mélange
décimales.
Et on refait d'accord. une dilution, ce qui fait des quantités très importantes d'eau. Donc quand on est au niveau d'un jardin, on n'a pas besoin d'avoir toutes ces quantités-là, hein, donc on jette au fur et à mesure. Et puis quand on arrive en D4, on en met 1 litre de côté pour redémarrer la D4, comme ça on n'a pas besoin de retuer à chaque fois des parasites. Quoi. Et donc la D8, on la pulvérise directement sur l'endroit, alors c'est doryphore, mettons, l'endroit qui est envahi par, qui est attaqué par ce ravageur-là. Et on le fait 3 fois dans la saison. Et ensuite, on recommence l'année d'après. Donc, c'est comme la plupart des traitements, c'est pas un pesticide qui va griller tout de suite les ravageurs, hein, les parasites. On va revenir l'année d'après, et au bout de la troisième année, on n'aura plus de d'oryphores ou autres parasites. Mmh. Ou adventices, parce que ça marche aussi pour les adventices.
Oui, la plupart de nos approches, ça reste des approches... Quoique si, sur certains extraits fermentés, on a quand même une approche qui peut être très... très puissante et très
insecticide.
Rapide.
Oui,
insecticide.
Là, on tue au début, mais après, on est plus. Alors, on est dans une démarche où on apporte une énergie, on ne sait pas trop pourquoi ça marche. Est-ce que c'est parce que les doryphores, mettons, sentent qu'ils ne sont pas trop bienvenus et qu'on les crame quand ils sont là, donc ils s'en vont. Ou bien, l'autre que j'aime mieux, moi, c'est de dire l'énergie. Quand il y a un parasite ou un ravageur, c'est qu'il apporte quelque chose. Il apporte toujours quelque chose. C'est pas, il ne vient pas uniquement prendre. Et donc, si on apporte la même énergie que ce qu'il apportait, il n'a plus besoin d'être là, puisque c'est apporté par la substance qu'on a pulvérisée. Donc, du coup, il ne vient plus. Il ne se manifeste plus, quoi. Il n'a plus besoin.
Ça doit être ça. Je dois avoir brûlé trop de pognon, et du coup, l'argent n'arrive pas. Et du coup...
Il faut trop diluer,
c'est ça, je ne me pulvérise pas assez.
Non, mais ça marche avec ce qui est vivant. L'argent, c'est OK, c'est quelque chose qui circule et qui peut être abondant, ça, mais je ne pense pas que ça fasse partie des êtres vivants, quand même.
C'est une histoire de mémoire aussi.
Oui, c'est ça, de l'énergie, donc du coup, qui est véhiculée par l'information qui est portée. Oui, parce que dans l'eau, si tu veux, il reste que ça, il reste de l'information. Donc, soit c'est de l'information qui leur dit ne venez surtout pas là, vous allez vous faire détruire, soit c'est l'information qui dit on apporte la même chose que vous, vous n'avez pas besoin d'être là.
Qui est déjà là,
voilà,
suffisante.
Donc, il n'y a pas besoin d'être là. Donc voilà, mais ça marche très bien. Et donc,
ça marche très bien, mais on ne sait pas trop comment, et ça vaut peut-être le coup de creuser. Faites vos essais. Hein,
Oui, parce qu'on ne sait pas dans quel sens ça va. En tout cas, on apporte l'information du ravageur qu'on a détruit. Quoi. Et ça marche très très bien. Quoi.
Et en fait, ça c'est une approche qu'on peut avoir avec n'importe quel ravageur.
D'accord. Après, les biodynamistes, ils le font même pour les ravageurs type mulot et tout ça. Moi, j'ai jamais fait. J'ai fait pour les. Parce
que... On tire les campagnols.
Non, enfin bon, faut les détruire quand même au début. Quoi. Donc voilà, ça j'ai pas fait. Mais on peut le faire avec les limaces, par exemple. On peut faire avec plein de choses.
Moi, je me pose cette question très pragmatique et très pratique. De comment on fait pour faire de la cendre de limace.
Ah ouais. Une fois, moi, ça m'est arrivé. Moi, j'ai fait du purin de limace, c'est-à-dire fait tremper les limaces dans. C'est horrible.
Oh là là.
Et en plus, mon fils, il l'a renversé pas au bon endroit. C'était l'horreur.
Eh bien, voilà. Ça... Tu as été puni. Par où tu as péché.
Voilà. De toute façon, mourir pour une limace, que ce soit dans le bec d'une poule, percé par une canne à chapeau. Comment on appelle là, les trucs chapeaux, là.
Percé par une petite tige.
Ouais, toi, il n'y a rien de très sympathique. De toute façon.
Non, mourir, c'est encore mourir pour une limace.
Oui,
mais bon, d'ici à faire du purin de limace, il y a quand même un niveau de perversité que je ne franchirai pas tout de suite.
Perversité, je sais pas. En tout cas, moi, j'en ai vu cramer des limaces et c'est impressionnant, ça explose en fait. Parce qu'en fait, on a fait un feu une fois sur un. On avait préparé un feu de joie, entre guillemets. Non, mais il y avait des limaces qui étaient mises dessous parce qu'il faisait humide. Et quand on a allumé le feu, ça faisait...
C'est rigolo.
Ça a explosé. On n'a pas compris tout de suite que c'était des limaces. Tu savais que ça a explosé?
Non, non plus.
Ça explose quand tu les fais brûler.
Eh bien, merci pour cette anecdote de la Saint-Jean.
Oui.
Qui va tellement bien avec la saison.
Et le purin de limace, c'est pour...
Donc le purin de limace, pourquoi
c'est pareil.
Fait
ça? Le purin de limace, c'était pour éloigner les limaces. Parce qu'après, tu les tues, t'en tues 3 ou 4 ou 10. Ça n'a rien à voir avec quand tu les tues systématiquement, même avec un produit qui est soi-disant pas toxique ou autre chose. Hein, tu sais, les granulés bio, ça existe. Donc, quand tu es dans l'approche de tuer, de toute façon... Donc là, tu n'en tues pas beaucoup. Et après, quand tu le pulvérises sur le sol, pareil, les limaces, elles ne viennent pas sur ce territoire-là. Donc, c'est pas le pire, quoi.
Ouais, allez, testez, faites des purins de limaces.
Le pire, c'est quand même purin de limaces ou isothérapie. Alors, ça, c'est des pratiques, ce sont des pratiques biodynamiques.
Par contre, faire exploser les limaces dans un feu, c'est pas biodynamique, on est d'accord. Faut pas faire ça chez vous, c'est comme arracher les ailes des mouches. Faut pas dire qu'on a dit qu'il fallait faire ça, hein, parce qu'après, les gens, ils disent, couleur terre, ils disent, faut faire péter les limaces. Non! C'est pas ça du tout.
Non, c'est un accident.
Il vaut mieux chercher comment fonctionnent les limaces et leur façon de vivre et après d'avoir des pratiques, par exemple, au niveau. Parce que les limaces, c'est vrai que c'est toujours le grand sujet des jardiniers.
Tout le temps.
eh ben, il vaut mieux regarder qu'est-ce qu'on a eu comme pratique au niveau de la préparation du sol, parce que très souvent, les limaces, elles vont pondre dans la terre. Et très souvent, quand on fait de l'agroécologie au sens large, hein, eh ben, on favorise les galeries dans notre sol, parce qu'on justement, on veut pas les tasser et tout ça. Et quelquefois, elles sont trop aérées, trop. Il y a des canaux qui sont trop importants, et du coup, ça favorise les limaces qui vont pondre dedans. Et par contre, une fois qu'on peut détruire les œufs, c'est plus facile. Donc, soit en les mettant à l'air éventuellement, soit après avec les carabes, soit.
Ah là là. Voilà. Bref. Un jardin sans limaces, ce serait un jardin.
Ah bah cette année.
Extraordinaire, non ? Ce serait un jardin extraordinaire. Allez, bah c'est le titre de la musique, mais comme ça tombe bien.
Oh, quel effort.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, monsieur le traîner. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère comme clients. Ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard. Dans ce jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et des passages cloutés, il y avait un bal qui donnait des primes vertes. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut, toute rose d'émotion, elles entonnaient, je crois, la valse brune. Une vieille chouette nous dit quelle distinction. Maman, dans ce jardin extraordinaire, je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les gens dont les yeux brillent. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Oui mais pas dans mon jardin extraordinaire. Un ange du bizarre, un agent nous dit, étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jouerai du luth pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand poète, mais nous préférions Artémise et moi, la douceur d'une couchette secrète qu'elle fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où ce jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Et bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour, et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination.
FM 97.1, c'était donc le jardin extraordinaire de Charles Trenet. avec des limaces qui font boum. Vous êtes dans une émission qui s'appelle Couleur Terre, et en plus, vous êtes aujourd'hui dans une émission qui parle de, d'approche curative au jardin quand on a des indésirés. Alors, quand on a des indésirés, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, Hélène? On les...
Alors, ouais, tout à l'heure, on a été un peu dans la violence et tout ça, mais là, je pense qu'on pourrait repartir pour... moi, ce que je fais beaucoup, par exemple, c'est plutôt avec les plantes répulsives, c'est-à-dire des plantes déjà qui, par leur présence dans le jardin, vont éloigner des nuisibles ou des insectes qu'on n'a pas envie de voir chez nous. Et parmi celles-là, moi, là, c'est l'absinthe. Moi, celle que j'aime mieux, c'est la tanaisie. Donc, c'est la même famille, c'est un peu la même... même action, c'est une plante qui est très puissante, hein, et qu'on peut mettre, par exemple, juste en la prendre elle-même, prendre une branche et la fractionner, par exemple, sur les choux, ça va éloigner la pierride. Ou il y a la fougère aussi, la fougère aigle, on peut aussi la fragmenter comme ça, ou bien pailler entre les plantes, et ça va éloigner la pierride. Donc il y a des plantes comme ça qu'on peut utiliser même sans les transformer.
Mais qui peuvent aussi être utilisées
et
transformées,
et après, on peut les en faire des extraits fermentés. Donc c'est bien, du coup, ça veut dire les avoir dans son jardin pour pouvoir les avoir sous la main.
J'avais entendu parler du piment, moi, faire des décoctions.
Oui,
des
décoctions, ça, c'est pas un répulsif, piment. Le piment, c'est un insecticide. Hein. Oui, moi, j'utilise beaucoup plus en Afrique et tout ça. Ici, on n'a pas forcément besoin de celle-là. En tout cas, oui, le piment, il est...
D'accord, retournons sur les répulsifs.
Il est utile, mais sur les répulsifs, donc il y a tout ce qui est absinthe, tanaisie. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant? La rue. La rue, ben justement, c'est un répulsif contre les limaces. Et par contre, il faut faire attention parce que c'est une plante qui est urticante. Mais déjà, sa présence dans le jardin, c'est hyper important. Et après, donc, on va faire une macération. Donc, les recettes, vous les trouverez. Là, par exemple, c'est 800 grammes de feuilles fraîches dans 10 litres d'eau. On laisse donc fermenter. Et ensuite, donc, on le dilue à 20%. Et
quand on laisse fermenter jusqu'à ce que...
Comme tout à l'heure, ce que je vous disais tout à l'heure.
Plus de bulles. Voilà, tout à l'heure, c'était l'ancienne émission.
Ah bah, c'est
eh
vrai,
bah oui, il faut le répéter. voilà, chers auditeurs, nous enregistrons un peu tout en même temps. Mais ce qui fait que...
Bon, eh bien,
il y a un paradoxe temporel. Comment on fait un extrait fermenté de plante?
Donc, allez, on reprend la recette. Donc, on prend de la bonne eau, c'est-à-dire de l'eau de pluie ou légèrement acide. On pèse les plantes, on les prend au bon stade. Et ensuite, on les met dans un récipient avec limite anaérobie, c'est-à-dire très peu d'oxygène. Et on les met à l'endroit à l'ombre où on passe tous les jours. Et on donne un petit geste avec la main, avec un bâton, pour faire passer un tout petit peu d'air dessous. Et dès que ça commence à buller, à faire des bulles, la fermentation a démarré. Dès que, par contre, il n'y a plus de bulles, tout de suite, on arrête la fermentation et on enlève les plantes, on filtre bien et ensuite, on dilue en général et on pulvérise.
Donc, on peut le conserver avant la dilution.
Et on peut conserver un an, elle garde ses valeurs base.
Et du coup, la rue, puisqu'on était là-dessus, on peut la faire fermenter et puis ensuite, on dilue.
On peut la garder aussi, et sinon, on le fait. Donc, le problème, c'est si on a des limaces, tout ça, en général, c'est un petit peu à long terme, quoi, on va dire. Quoi. Donc, on a le temps de faire une macération, mais... Il faut compter quand même en moyenne une semaine, 10 jours quoi, pour une macération ou un extrait fermenté. Donc, ce n'est pas immédiat.
En fonction de la température qu'il fait.
En fonction de la température. Ça veut dire que c'est plus confortable, si on a la place, de conserver un extrait fermenté à la cave. Et quand on en a besoin, on a juste la dilution à faire et on dynamise si on veut et on pulvérise.
Parce qu'on conserve une année à peu près, un peu plus.
Et pour tous, c'est la même chose, un kilo de plantes.
Par exemple, là, tu vois, la rue, c'est 800 grammes pour 10 litres. En gros, c'est...
On n'est pas loin du kilo pour 10 litres.
Un kilo pour 10 litres, ça tourne un peu autour.
Ah oui, d'accord. Donc, on vérifie.
Voilà. Et quelquefois, c'est des infusions. Dans les répulsifs, par exemple, la mélisse, on va la faire en infusion. Ou pour les maladies cryptogamiques, donc mildiou, oïdium et tout ce qui est champignons, avec la prêle... qui est donc en même temps préventif et curatif et qu'on va faire en décoction, on rajoutera une infusion d'achillée, par exemple. Donc, on ne fait pas toujours un extrait fermenté, mais la plupart du temps, c'est ça.
Tiens, je tombe sur la rhubarbe. Parce que là, pour le coup, c'est tout à fait une plante qui... Moi, j'aime bien quand les plantes font plusieurs choses en même temps. Oui. La tanaisie, j'en ai pas encore dans mon jardin parce que je m'en servirais probablement...
Ah bah rien que sa présence, déjà. Hein.
Oui, voilà, c'est, je sais qu'il faut que, il faut que j'en mette.
C'est beau, ça sent bon.
Voilà, mais pour l'instant, c'est beau et sent bon, ce sont pas des... Moi, c'est rarement des choses qui me touchent suffisamment. Par contre, la rhubarbe, ça se mange. Oui. Et voilà, la loi du ventre. Et je sais qu'on peut s'en servir contre les pucerons, voilà. Les chenilles, etc. Et tu aurais une
Et donc, c'est la macération, donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, extrait fermenté, 500 grammes de feuilles fraîches dans 3 litres d'eau.
D'accord.
On laisse pendant 24 heures et après on pulvérise pur à 3 reprises. Donc ça, la plupart du temps, on le fait 3 fois en curatif. Ça agit pas comme ça dans l'immédiat, quoi.
D'accord.
Après, il y a le lierre, par exemple, qui est une plante très courante. Donc ouais, qui va marcher pour les acariens, les pucerons. Et donc on fait 1 kg pour 10 litres d'eau, extrait fermenté.
D'accord.
La capucine, elle sert à plein de trucs parce que...
Se mange.
Voilà, en plus ça se mange, elle est belle. Et donc là, c'est la présence aussi. La menthe, on peut faire des infusions. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Le sureau.
Ah oui, le sureau.
Le sureau, là, quand on parle de toutes ces plantes, c'est toutes des plantes qui sont des plantes médicinales, en fait, hein, et qui ont donc des effets, qui peuvent avoir des effets toxiques. Donc oui, le sureau, oui, pour les taupes, les mulots. Donc on fait un extrait fermenté, puis après on fait macérer.
Extrait fermenté de quelle partie? De feuilles?
De feuilles.
D'accord. À quelle proportion?
Et 1 kg pour 10 litres.
D'accord.
Macération 3 jours et après on arrose pur. Quoi.
Macération 3 jours, qu'est-ce que tu appelles macération 3 jours?
Ça veut dire laisser dans l'eau froide pendant 3 jours. C'est un extrait fermenté, en fait, si tu veux, mais on n'attend pas le bout de la fermentation.
D'accord. Ok, donc interrompre en cours de route.
Voilà, parce que l'intérêt, moi, j'utilise donc beaucoup ce livre, c'est que lui, il a beaucoup expérimenté. Et
Éric
en fait, Éric Petiot, ouais, et il regarde, en fait, dans une fermentation, il y a le produit de départ et il y a le produit de fin. Mais entre les deux, il y a tout ce qu'on appelle les produits transitoires et ce ne sont pas les mêmes. Donc, il y a des produits qui sont actifs en début de fermentation qu'on ne va plus retrouver à la fin. Donc, c'est pour ça que, par exemple, là, on fait juste 3 jours. Donc, la fermentation n'est pas finie, mais on a des produits qui sont ceux qu'on recherche, quoi. La rhubarbe, la prêle, l'ortie, la menthe, la mélisse, le lierre, la lavande, le forbe et purge, donc qui est censé éloigner les limaces et les campagnols. Donc là, les gens souvent ils disaient il faut mettre de l'euphorbe dans le jardin. Vous savez, c'est l'euphorbe qui est pas belle. Enfin, je ne trouve pas belle, pardon.
Moi, et en fait,
il y en a plein des euphorbes. Voilà. Là, l'euphorbe et purge. Ouais. Ah, et en fait, il conseille de faire un extrait fermenté. Avec 800 g de pousses tendres qu'on met à macérer quelques jours dans 10 litres d'eau. Et on pulvérise pur en périphérie du potager et des massifs. C'est-à-dire on délimite notre territoire, quoi, quelque part.
D'accord.
Et en fait, avec tous les ravageurs et les parasites, on peut faire ça. Enfin, les ravageurs surtout, on peut faire ça. C'est-à-dire de dire, ben voilà, nous, on est là, toi, tu es à l'extérieur. Donc, soit c'est en délimitant le territoire, soit c'est en communiquant avec les parasites, soit on peut aussi les attirer à l'extérieur, faire un jardin pour les ravageurs. Et le nôtre, il est ailleurs.
Voilà, là, c'est l'approche répulsive. Est-ce qu'il y a l'approche
Alors, si on passe après au plus méchant, voilà.
Ouais, voilà, est-ce que
donc les fongicides.
C'est une demande qu'on a souvent. Hein.
Les fongicides, donc il y a la prêle qui est quand même la plus connue, hein, dont on fait une décoction. Et
de
ensuite, on dilue à 20%. Non, ça, c'est alors 100 grammes par litre d'eau. Bah oui, c'est
pareil. D'accord. Bah oui, ouais, c'est le même. C'est le même
en général, c'est parce que c'est la prêle, on peut la prendre sèche, hein, parce qu'elle est très, très, très pauvre en eau. Hein. Donc, en général, ça fait déjà beaucoup. C'est pour ça qu'on parle plutôt en grammes. Mais on peut même prendre moins. Nous, en biodynamie, on met 60 grammes, puis après, on dynamise, donc.
D'accord, contre les champignons.
Donc la prêle, oui, pour toutes les maladies cryptogamiques, plus de l'aquilée, donc ça c'est bien en rajouter.
Donc maladies cryptogamiques, c'est quand les feuilles qui jaunissent, qui noircissent, les cloques du pêcher, les taches blanches, les filaments.
Donc fongicide, dès qu'on dit cide, de toute façon c'est qu'on tue, hein.
Oui.
Donc voilà. Donc après, il y a des plantes qui sont plus ou moins fortes. Par exemple, une qui est une plante usuelle qui est très puissante, c'est l'ail, avec lequel on peut faire des décoctions, avec lequel on peut faire des mélanges avec de l'huile. Enfin, c'est très puissant, l'ail. Hein. On peut aussi rien que le faire pousser, par exemple, au milieu des rosiers, ça va.
Donc ça, c'est plutôt insecticide.
Repousser les.
Ça, on est plutôt sur un insecticide.
C'est un fongicide.
Fongicide, d'accord.
La tanaisie aussi, c'est fongicide.
Encore elle. Mmh. Mmh. Et on utilise quelle partie dans la tanaisie?
La tanaisie, on prend la plante, les feuilles.
La plante complète, d'accord. Enfin, la plante complète, la partie feuille.
La plante feuille, oui, un peu ça. D'accord. La sauge aussi, c'est une plante commune qu'on peut avoir dans le jardin. La sauge médicinale, donc pareil, on fait un extrait fermenté. Le rumex, c'est rigolo parce que le rumex, c'est l'oseille. Et donc, c'est une plante sauvage qu'on n'aime pas trouver dans nos jardins.
Et puis qui est plutôt envahissante.
Voilà.
On a plutôt envie de dégommer.
Oui, mais une fois, j'ai vu une dame, elle voulait acheter des graines de rumex. Je trouvais c'était rigolo. Si vous voulez, on peut s'arranger.
Il y a pas mal de sites de plantes, notamment des vendeurs. Je sais pas si c'est peu scrupuleux, mais souvent des gens qui sont dans l'agroécologie ou permaculteurs. Et puis qui vendent effectivement des plantes
qu'on trouve
absolument partout. Comme quoi, braves gens, l'ignorance peut vous coûter 5 ou 10 euros. Hein, parce que l'autre jour, c'était quoi? C'était une Roberte ou un géranium herba petit Robert. Petit Robert, c'est autre chose.
Herba Robert.
Ça se trouve à peu près partout. C'est quelque chose qui s'appelait aussi le clou de girofle européen. Alors, c'est pas du tout du clou, on mange les racines. Mais c'est un truc qui est absolument envahissant, qui est partout. Et c'était 4,50 euros le pot. Moi, je peux en donner grandement.
Ouais, mais de toute façon, là, dans les plantes qu'il y a, c'est soit des plantes médicinales, soit des plantes sauvages, quoi, qui sont.
Et donc, le rumex peut être utile
pour le. Donc là, c'est plus pour les arbres, pour le chancre du pommier et du poirier.
Ah, d'accord.
Après, il y a quoi dans les sauvages? L'absinthe, c'est sauvage. La bardane, c'est sauvage. La bardane pour le mildiou de la pomme de terre aussi, ça peut marcher, ça, c'est bien. Enfin, c'est bien dur, c'est courant comme plante aussi. Et après, moi, je conseille surtout aux gens d'avoir toutes ces plantes-là dans leur jardin. Parce que déjà, rien que leur présence, ça va être répulsif.
Ça et ensuite, on va là,
tout, voilà, et tout de suite, on peut s'en servir.
Les insectes, on
s'en. Alors après, les insecticides, si, il y a des insecticides. Donc, il y a l'ail aussi. Alors moi, ça, je n'utilise pas trop. Mais bon, la fougère, moi, j'utilise quand même de temps en temps. Donc, c'est la fougère aigle. Et ça marche pour le puceron, les taupins. Et donc, on fait un extrait fermenté. Et après, donc, vous pouvez le garder, donc 1 kg pour 10 litres et... Ensuite, on le pulvérise et ça, vous pouvez garder votre extrait de fougère.
Pendant un moment.
L'ortie. Alors, l'ortie, par contre, là, quand c'est en insecticide, on l'utilise en infusion et pas en extrait fermenté. La consoude aussi en infusion parce que ce n'est pas les mêmes principes actifs qui vont être dégagés. Donc, l'infusion, je le redis parce qu'à la fois, les gens ils savent pas trop.
Oui, entre infusion, décoction,
tout ça. Voilà. Donc, l'infusion, on met la plante dans l'eau froide et on l'amène à, en général 80 degrés ou en 70 et 90, ça dépend des plantes. Mais on ne fait pas bouillir, on ne laisse pas bouillir. Et après, donc, quand ça commence à frémir, on va dire en général, on éteint, on couvre et on laisse 5 minutes. Et voilà.
À ce moment-là, la science infuse.
L'ail.
Alors que la décoction, on fait bouillir pendant un temps déterminé.
On laisse bouillir pendant 10 minutes au moins, quelquefois plus.
Et puis l'extrait fermenté, on ne fait pas monter en température.
L'extrait fermenté, quand c'est dans l'eau froide, voilà.
Okay.
Parce qu'après, ça peut, c'est les macérations, ça peut être dans l'eau, dans l'alcool et tout ça. Mais en général, nous, on fait dans l'eau froide.
Et puis, du coup, il y a aussi, tu étais en train de dire, mais il y a aussi une autre manière d'utiliser les plantes, c'est en paillage.
Oui, on dit. Mais après, toutes les plantes
je suis
en train
vont
de pas.
Réaliser, là.
Oui. Comme la fougère ou la tanaisie pour les. Pour repousser la pyrine. Mais ça va être plutôt répulsif qu'insecticide.
Oui.
Parce qu'insecticide, ça veut dire que ça tue quand même. Donc, pour quand même des choses plus violentes.
On s'arrête là pour cette partie-là ou tu as envie de rajouter
un truc auquel je ne pensais pas, qu'il y avait le savon noir qui peut servir de ce qu'on appelle le mouillant. C'est-à-dire que quand on va le mélanger à une substance XY qu'on a fabriquée, et ben en fait, ça va permettre à la substance de coller sur la plante et du coup de rester plus longtemps actif que si on pulvérise et que ça va s'écouler et ça va disparaître.
En ce qui concerne les pucerons, le seul savon noir agit assez seul, ça a tendance à.
Il asphyxie les pucerons.
En fait. Les englobe.
Mais sinon, ça peut être bien d'en rajouter pour faire cet effet collant sur la plante. Ça évitera de toujours repasser parce que les traitements, même insecticides, on les fait au moins 3 fois. On ne les fait pas un seul coup et puis c'est fini.
Et voilà, il va falloir persévérer, se faire mousser. Et puis on va écouter de la musique. N'est-ce pas? Allez,
yes.
Même si on vient de tuer des pucerons, il y a de la joie.
Voilà.
Il y a de la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur va chavirer chancelle, c'est l'amour. Qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plat bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel. Grisé de soleil, de chansons et de fleurs, il court vers le bois, il court à toute vapeur. Il a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la scène à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais tout seul dans mon coin. Y'a de la joie, le percepteur met sa jaquette plus boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout. Et voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, et oui, car le ciel est gris. Faut se lever, se laver, se vêtir, et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que mon rêve a du vent, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Y'a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Y'a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit. Y'a de la joie, et du soleil dans les ruelles. Y'a de la joie partout, y'a de la tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour les demoiselles, y'a de la joie partout, y'a de la joie, y'a de la joie, y'a de la joie.
Couleur FM 97.1. Vous êtes dans Couleur Terre. Il y a de la joie dans Couleur Terre grâce à Charles Trenet. Et toute cette émission, nous avons pu la faire, la préparer, grâce à un certain nombre de références bibliographiques. Des références bibliographiques, il y en a plein, Titane. Tu en tiens une de nos références bibliographiques qui n'est pas des moindres.
C'est notre référence et nous sommes partis de cette référence pour faire notre émission Couleur Terre. Donc c'est l'agroécologie. Il y a eu l'édition 1, maintenant une nouvelle édition avec la préface de Stéphane Bellon. Avec Hélène Hollard, si présente, et puis Joliet Bénigne et Marie-Christine Favé en collaboration pour tout ce qui est animaux. Donc l'agroécologie.
Un livre qui va vous parler des grands principes, qui va de la philosophie générale de travail, qui vous donnera quand même aussi un certain nombre d'éléments un petit peu plus précis, mais qui va couvrir l'ensemble des... l'ensemble de la thématique, de la philosophie.
Et qui nous explique déjà la permaculture, également, ce que c'est. Donc, c'est au centre de la Terre, une réponse locale et globale.
Plus spécifiquement sur la question des extraits fermentés et de l'approche curative, préventive au jardin, nous avons Purin d'Ortie et compagnie.
Alors, il a dû être réédité depuis. Il est aux éditions de Terran. TE2RAN, dans laquelle il y a énormément de livres aussi qui sont sur le jardin, sur les plantes, sur beaucoup de sujets, donc c'est intéressant. Et donc celui-là, il a des recettes pour un peu tout.
Éric Petiot.
Il en a écrit un nouveau, mais j'ai pas le titre en tête, où il parle en même temps de géobiologie, de qualité de l'eau et de santé des plantes, mais en fouillant, donc en cherchant aux éditions de Terran. En tout cas, moi, j'utilise ça parce que j'ai pas envie d'avoir tout dans la tête.
Bah, donc, et puis, ça a l'air d'être. Quoi. Oui, en plus, c'est un petit fascicule qui fait une petite centaine de pages dans un format somme toute assez pratique, bien illustré, joli en couleur, et puis avec des abacs, enfin en tout cas des listes de plantes avec les propriétés, le mode d'emploi, les recettes précises dont on a dit que c'était important quand même qu'elles soient suivies. Un livre de référence.
Et puis disons que moi ce que j'aime bien c'est que tout a été expérimenté par l'un ou l'autre des auteurs, donc c'est pas que de la théorie, quoi.
Oui, c'est toujours agréable d'avoir des auteurs qui sont des vrais auteurs, parce qu'on a, on n'en peut plus des guides, je peux pas citer le nom, mais Marabout par exemple, ou qui prennent des journalistes qui vont faire une recension de tous les bouquins existants et puis qui ensuite font un bouquin, et parfois il y a des horreurs en plein milieu du truc parce qu'ils ont fait une approximation qui change tout, enfin, bref.
Et puis là ils font de la recherche, donc quelquefois justement dans les nouvelles éditions il y a des choses qui sont plus en accord avec ce qui était dit au début, parce qu'ils essayent beaucoup, par exemple, bon, Éric Petiot travaille beaucoup sur les arbres, ils essayent sur les huiles essentielles par exemple, voilà, il y a plein de choses. Après il y a l'approche biodynamique que je trouve qui est importante pour la santé des plantes, donc c'est beaucoup du préventif, mais il y a aussi du curatif, dont le isothérapie dont on a parlé, et ça c'est le jardin biodynamique qui s'appelle, c'est chez Ulmer. Donc pareil, il y a pas mal de, et donc ça c'est toute la biodynamie, enfin
qui est-ce qui a écrit ça? Einitz and Merkens. Mais c'est en français, hein, quand même. Oui. Donc c'est toute l'approche qui est accompagnement de la plante dans son environnement et son...
Ben, le sol, la plante, et comment on peut faire quand on a des problèmes.
Ouais. Ben, pas seulement, d'ailleurs.
Pas seulement, non, mais je veux dire aussi quand on a des problèmes. Puis après, il y a tous les bouquins.
Une vision beaucoup plus large. Puis il y a Terre Vivante.
Tous les bouquins de Terre Vivante. Ouais. Alors moi, ça, c'en est un vieux, Ravageur et maladie au jardin. Maintenant, il existe un sur les auxiliaires et un sur les ravageurs.
C'est Schmidt et Engeler.
Et il y a entre autres, comment il s'appelle ? Après, il y a celui-là, des auxiliaires dans mon jardin. Je trouve que c'est bien aussi pour voir comment, justement, avoir une démarche.
Oui, c'est les guides, là, la série de guides qu'ils ont sortis, carrés, chez Terre Vivante. Les auxiliaires dans mon jardin, les attirer, les loger, les nourrir, Blaise Leclerc et Gilles Leblay.
Et après, là, je n'ai pas celui-là, mais il y en a un, je crois que c'est Vincent Albouy, je crois que c'est lui qui est spécialiste sur les insectes et tout ça, et qui dit que justement, qu'on connaît à peine 5% des insectes, en gros. Et que, donc quand on trouve un insecte qu'on ne connaît pas, ben, en fait, il ne faut pas le détruire, parce qu'il y a très peu de chances qu'il soit
connu.
Qu'il soit toxique, nuisible.
En plus.
Donc, je ne sais plus si c'est 5% qu'on connaît ou 5% qui sont nuisibles. Enfin bref, en tout cas, il y a un pourcentage minime de ce qu'on connaît qui est nuisible.
Et qu'arriver avec le bazooka là-dedans, ce n'est pas forcément la meilleure idée. On est en train de se plonger dans les bouquins en plein milieu d'une émission de radio, ce qui fait que ce n'est pas très radiophonique au final, si ce n'est le doux bruit des pages qui tournent. Mais vous rassurez-vous, on ne vous laisse pas. Enfin, peut-être qu'on va juste vous laisser sur ce bruit de page délicieux.
Moi, je voudrais rajouter, parce que je trouve que le travail de Terre Vivante est très intéressant, et l'approche est plus facile au niveau des livres également. Soit avec vos enfants, dans la nature, enfin, il y a toutes sortes de livres comme ça, d'approches.
Oui, puis alors, je ne sais pas où ils en sont sur l'accueil, parce qu'à un moment, ils n'accueillaient plus le public, mais ils n'accueillaient que des groupes. Mais en tout cas, sur place, il y a un jardin aussi, ils mettent en pratique, donc c'est intéressant aussi d'aller voir.
À Mince, dans le Sud-Isère.
Dans le Trièves.
Bon, ben, on va terminer.
Voilà, en tout cas, ils proposent des stages, justement, peut-être qu'ils coûtent un os ou deux, je ne sais pas.
Toutes les jambes.
Ce n'est pas leur prix, je ne connais pas les prix des stages, mais en tout cas, ils en proposent.
Je pense que
c'est
un prix ordinaire.
Voilà.
C'était Couleur Terre, une émission pulvérisée trois fois grâce aux moyens techniques de Couleur FM en Isère. Une émission préparée par Titane Houben et avec Laurent Forcheron à la technique, animée par Flo MCF de Radio Permaculture avec Hélène Ollard et aujourd'hui Marie-Laure qui a fait notre choix musical. Au revoir, mesdames.
Au revoir tout le monde et merci. Merci Laurent.
Vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger, mais aussi la soutenir sur radioperma.org. On en a bien besoin. Tout comme vous pouvez vous inscrire à nos lettres de nouvelles pour recevoir directement nos nouvelles productions. À très bientôt avec Couleur Terre. Cultivons la vie.
Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture, et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.